Vous écoutez RFI, il est 18h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Mardi 3 décembre, bonsoir à tous, c'est parti pour 3 heures d'infos sur RFI, votre session soirée, vous l'attendiez. Eh bien ça commence maintenant, au programme Mardi Politique, dans 10 minutes, à la veille de la chute possible du gouvernement français, l'invité sera Antoine Vermorel-Marquès, député de la Loire, vice-président du groupe Droite Républicaine, et répondra aux questions de Roselyne Fèvre et Frédéric Rivière. Juste après, ce sera le débat du jour, qui ce soir posera cette question, est-ce que Benjamin Netanyahou peut être jugé? Le premier ministre israélien, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. La France a prévenu que s'il foulait son sol, eh bien, elle ne l'arrêterait pas, évoquant son immunité diplomatique. Dès lors, comment parfaire la justice internationale? Rendez-vous dans 30 minutes, 18h TU, dans une heure, le grand journal du soir, où il sera question de la crise en Corée du Sud, où la loi martiale a été décrétée, 18h30 TU Afrique Soir, la première édition de ce mardi, 19h10 TU, enfin votre session reportage Accent d'Europe, ce soir dans le Haut-Karabakh, où les autorités azerbaïdjanaises mettent en scène le repeuplement de l'enclave, et puis le grand reportage qui sera ce soir consacré à l'e-sport. Voilà pour le programme, il y a 18h01 ici à Paris. C'est le journal de Gilles Moreau. Bonsoir Gilles.
Bonsoir à tous.
Et à la une donc cette crise en Corée du Sud.
Oui, à la surprise générale, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a pris la parole aujourd'hui à la télévision pour annoncer la mise en place de la loi martiale d'urgence dans tout le pays. Le chef de l'État accuse en réalité l'opposition d'avoir pris en otage le processus parlementaire. Actuellement, Heike Schmidt, le pays est plongé dans la confusion.
Oui, tout à fait Gilles. La police a bloqué le Parlement. Des hélicoptères se sont posés sur le toit alors que des milliers de manifestants se sont rassemblés devant l'Assemblée à l'appel de l'opposition. Parmi les manifestants, aussi des députés du Parti démocrate majoritaire au Parlement qui jugent illégale la décision du chef de l'État. D'autres élus de l'opposition, cette fois à l'intérieur du Parlement, tentent de bloquer la décision du président par un vote contre la loi martiale. Dos au mur, dans l'impossibilité de faire voter le budget, mise en difficulté aussi par des tentatives de destitution. Le président Yoon, au pouvoir depuis 2022, a pris tout le monde de court. Dans son discours ce soir, il a affirmé que la loi martiale était nécessaire pour protéger le pays des forces communistes nord-coréennes. En réalité, dans son viseur, l'opposition qu'il accuse de paralyser le gouvernement et qu'il qualifie de force hostile à l'État ayant intention de renverser le régime. Sa décision, Gilles, a provoqué une onde de choc dans le pays. Mais à l'heure où je vous parle, les forces de l'ordre commenceraient à quitter le Parlement. Des manifestants saluent en ce moment le vote des députés annulant la loi martiale.
Merci pour ces précisions, Heike Schmidt. J'ajoute que parmi les réactions internationales, les États-Unis et le Royaume-Uni déclarent qu'ils suivent de près la situation en Corée du Sud. Le chef de l'OTAN dénonce des violences préoccupantes en Géorgie. Depuis la semaine dernière, ils sont très nombreux à manifester chaque soir contre le gouvernement. Des rassemblements dispersés par la force dans cette république du Caucase. On assiste actuellement à une sixième soirée d'affilée de protestations devant le Parlement à Tbilissi. Et ce n'est pas la dernière décision de la Cour constitutionnelle qui va calmer l'ardeur des manifestants. Elle a en effet maintenu les résultats controversés des législatives remportées fin octobre par le parti au pouvoir. L'opposition dénonce un vote truqué. En France, le gouvernement Barnier vit vraisemblablement ces derniers jours. En vertu de l'article 49.3 de la Constitution, le Premier ministre a donc engagé sa responsabilité sur le vote du budget de la Sécurité sociale. Le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen, a l'intention de voter toutes les motions de censure, la sienne et celle de la gauche, des motions qui seront examinées demain après-midi. À la veille du vote, Michel Barnier semble résigné, tout en mettant en garde contre les conséquences d'une chute de son gouvernement. Elle rendra, dit-il, tout plus difficile et plus grave. Michel Barnier.
Tout le monde sait que la situation est difficile. Elle l'est sur le plan budgétaire. Je l'ai dit dès le début en cherchant à dire la vérité aux Français. Plus grave qu'on ne l'a cru, avec une dette que tout le monde devra payer un jour. La situation est difficile sur le plan budgétaire, sur le plan financier. Je suis aussi très vigilant sur les marchés financiers que je connais assez bien, très difficile sur le plan économique et social, je viens de vous le dire. Il y a une chose dont je suis sûr, monsieur Sassaigne, je suis sûr, et retenez bien ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que la censure dont il est question demain, nous retrouverons, rendra tout plus difficile et plus grave.
Michel Barnier, qui interviendra ce soir au JT de 20h sur TF1 et sur France 2. Et pendant que la France s'enfonce dans la crise politique, Emmanuel Macron poursuit sa visite d'État en Arabie Saoudite. Pas un instant, le président n'a commenté publiquement cette crise à Paris. Escalade militaire dans le nord de la Syrie après s'être emparée d'Alep. L'alliance rebelle menée par des islamistes radicaux s'approche de Hama, autre ville importante située dans le centre de la Syrie. Hama relie par la route Alep à la capitale Damas. Les forces du régime tentent actuellement d'embarrer l'accès avec l'appui de l'aviation russe. Elles ont aussi le soutien de milices irakiennes pro-Iran venues prêter main forte à l'armée syrienne. L'ONU qualifie la situation à Gaza d'épouvantable et apocalyptique. En 14 mois de guerre, les bombardements israéliens ont fait officiellement plus de 44 000 morts. Mais dans l'enclave palestinienne, le danger ne vient pas uniquement du ciel. Pour le secrétaire général de l'ONU, la malnutrition est endémique et la famine imminente. C'est Israël qui contrôle toute l'aide humanitaire acheminée chaque jour à Gaza. Mais une fois les convois entrés, ils sont à la merci des pilleurs. Reportage à Gaza de Rami Al-Megari avec Sami Boukhalifa à Jérusalem.
Avant la guerre, Om Mohamed et sa famille, 12 personnes, consommaient un sac de farine de 25 kg par semaine. Son prix aujourd'hui, 250 euros, hors de portée pour la majorité des Gazaouis.
On ne peut plus continuer comme ça, les prix explosent à cause des pilleurs. Ils détournent l'ensemble des convois de farine. Certains commerçants ont de vieux stocks, mais leur farine est infestée de verre. C'est immangeable.
Alors, Tamer, vendeur sur un marché dans le centre de la bande de Gaza, tente de proposer des alternatives.
Avec la pénurie de farine, les gens se rabattent sur le riz, mais c'est 24 shekels le kilo.
Soit 6 euros. Pas le choix pour nourrir ses enfants. Ahmed, autrefois avocat, se prive.
Mon dernier vrai repas remonte à 3 semaines. Parfois, on trouve du pain dans certaines boulangeries, mais c'est rare. L'UNRWA m'avait promis un sac de farine, mais ils viennent de me dire que c'était annulé.
L'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, a annoncé suspendre la livraison d'aide dans la bande de Gaza par Kerem Shalom, principal point de passage depuis Israël. En cause, les pillages et la contrebande dans ce territoire qui a sombré dans l'anarchie à cause de la guerre. Rami El-Merali, Gaza, Sami Bourkifa, Jérusalem, RFI.
Il avait promis en 2022 de se rendre en Afrique, promesse tenue 2 ans après. Et alors qu'il est sur le point de quitter la Maison Blanche, Joe Biden est en déplacement en Angola, ancienne colonie portugaise. Il est attendu sur la coopération économique, également sur la question des droits de l'homme. C'était il y a 40 ans à Bhopal en Inde, une fuite de gaz toxique provoquait le plus grand désastre industriel de l'histoire. 40 ans et 20 000 morts après, les habitants de la ville souffrent toujours de maladies terribles. Et les militants écologistes continuent de se battre contre les industriels responsables de la catastrophe. Correspondance de Combasta.
Un rapport de The Lancet, publié peu avant ce triste anniversaire, estime que 150 000 personnes souffrent encore de maladies très diverses à Bhopal, où même la nouvelle génération développe un taux alarmant de cancer. L'activiste Rachna Dhingra juge que l'ampleur du désastre de Bhopal reste méconnue.
Tous ces enfants qui ont arrêté d'aller à l'école parce que leurs parents étaient malades et qu'ils devaient travailler, combien cela a coûté? Le gouvernement n'a jamais quantifié l'impact socio-économique exorbitant de ce drame.
À ce jour, le groupe américain Dow Chemical, incriminé dans cette catastrophe sanitaire, n'a versé que 450 millions d'euros de réparation. C'est très peu ramené au nombre de victimes, juge l'activiste Satinath Sarangi, qui appelle à ne pas oublier le dossier Bhopal.
La pollution industrielle et le changement climatique sont les deux menaces à notre survie sur cette planète. Ces crimes sont décidés dans les bureaux de multinationales. Tant qu'il n'y a pas de justice à Bhopal, cela continuera partout dans le monde.
Les activistes se sont récemment tournés vers la Cour suprême de l'Inde pour exiger des compensations supplémentaires pour les victimes, alors que l'enfer de Bhopal semble sans fin. Combastin, Chennai, RFI.
Un tout dernier mot du loup, désormais moins protégé dans l'Union européenne. La convention de Berne qui assure la protection de la faune vient sous la pression des éleveurs de déclasser le statut de protection du loup. Bonne soirée sur RFI. Tout de suite, Mardi Politique.